Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus. Voilà, nous allons passer du temps avec Martine Sévegrand, et puis nous allons essayer de faire un mini-débat ensemble. Donc, je tiens, chère Marie et Martine Sévegrand, à vous remercier
Merci.
d'être venues jusqu'à Bordeaux pour ce temps de présentation de votre ouvrage. Voilà. Je suis très heureux d'accueillir l'historienne spécialiste de l'histoire de l'Église au XIXe et XXe siècle, et en particulier avec la relation donc autour de la sexualité, l'Église catholique et la question de la sexualité. Vous avez écrit pas mal d'ouvrages, je vais y revenir, et c'est vrai que vous êtes sûrement, sinon l'historienne la plus compétente, ou une des personnes les plus au fait de ce dossier assez compliqué. Et je crois que c'est intéressant de pouvoir, à travers cette soirée, nous redonner un certain nombre de jalons de cette histoire. Chaque fois, donc, j'ai travaillé sur ces textes. À chaque anniversaire, j'ai essayé, tous les 5 ans, de travailler avec les étudiants, quand j'étais au milieu des étudiants, avec les laïcs en formation à l'Institut Péberlan, avec les jeunes médecins chrétiens, dont j'étais longtemps l'aumônier national, de travailler sur la question d'humanévité, parce que c'est une affaire dont on parle souvent, mais peu de gens l'ont lu, ou peu de gens connaissent un peu tous les débats qui ont eu lieu au moment de son élaboration et également de sa réception. On va en parler. Donc, on va voir que c'était vraiment aussi un dossier assez complexe. Alors, je suis venu parce que chaque fois, j'ai lu et relu vos ouvrages. Je les ai mis là. D'abord, Les enfants du bon Dieu. Voilà. Et donc,
C'est ma thèse.
voilà. Les catholiques français et la progression au XXe siècle. Ensuite, il y a eu l'amour en toutes lettres, avec toute la correspondance d'envoyée à l'abbé Viollet. Je ne considère pas du tout ce dossier-là. Et c'est très intéressant de voir comment les questions se posaient dans les années 20-40. Voilà. Et puis, un livre que vous avez déjà fait sur la question, l'affaire Humanévité. Et donc, vous avez repris en raison de nouvelles donc, développements, on va en parler. Et puis aussi, un livre sur le Concile Vatican II, quelques épisodes. Et je trouve intéressant aussi comme manière de re-rentrer dans des pans entiers d'histoire qui s'éloignent au fur et à mesure, mais qui ont beaucoup marqué notre actualité. Je crois que c'est intéressant de pouvoir faire ce retour. Quand on travaille en éthique, en bioéthique ou en théologie, je crois que c'est important de faire un travail pluridisciplinaire, donc de pouvoir voir le regard de l'historien qui apporte toute une série d'éléments qu'on connaissait mal ou qu'on ne connaissait pas. C'est ainsi que c'est grâce à vous que j'ai découvert la fameuse lettre donc du père Congar aux évêques de France pendant l'été 68, avant la réunion de Lourdes, où les évêques devaient se prononcer sur une note pastorale à envoyer pour présenter le texte. Voilà. Et ça, je crois que c'est intéressant de se revenir. Nous sommes l'été 68, je ne sais pas si vous imaginez. Voilà, et sortir un texte, un peu d'autorité quand même, Humanévité, fin juillet 68. On peut comprendre aussi que le contexte historique n'est pas aidé à la réception. Voilà. Et il y a eu un synode, c'est grâce à vous aussi que j'ai découvert qu'il y avait un synode de théologie en octobre 68, et ça, on ne va pas trop, si on en reparlera. Voilà. Donc, nous allons parler de ce document, mais aussi de la suite, et puis des questions actuelles. Nous allons être trois. Il y aura Pierre Barbet, donc avocat de la famille, donc assez habitué à toutes les questions complexes concernant la vie familiale. Et moi-même, donc Jacques Fauché, alors je suis médecin, je suis prêtre. Dans ce diocèse, je suis le délégué diocésain au monde de la santé. Et c'est moi qui ai organisé cette série de conférences, de trois conférences. Vous verrez le papier là, il y en aura deux autres avec Hubert de Vernet qui est parmi nous. Voilà, et puis d'autres personnes donc, qui viennent sur le conseil génétique. Et pour essayer justement d'aborder ces situations difficiles et avoir des éléments de discernement. Et pour discerner, il faut parfois réexplorer des dossiers un peu complexes. Et donc, même ça m'intéresse du point de vue théologique. Je suis docteur en théologie et en anthropologie. Mais je suis aussi l'aumônier national des médecins catholiques, des pharmaciens catholiques, des soignants et travailleurs sociaux catholiques. Donc, ça m'amène à avoir des regards croisés. Comme directeur de l'espace bioéthique aussi, ça ouvre toute une série de regards croisés. Et je pense qu'aujourd'hui, grâce à vous, nous allons pouvoir bien explorer toute la partie histoire. Voilà. Et donc, merci d'être ici. La parole est à vous.
Eh ben, merci de votre accueil, parce que vraiment, je suis fort heureuse que vous m'ayez invitée. Alors, bon, moi, je suis historienne. J'aborde les questions de ce point de vue-là. Je voudrais, pour introduire à ces questions de sexualité dans l'Église, rappeler un petit livre qui a fait beaucoup de bruit dans l'Église en 1943, « La France, pays de mission ?» Point d'interrogation. Ce livre a été à l'origine d'un élan missionnaire et à l'origine aussi des prêtres ouvriers, lancé par le cardinal Suard. Or, quand on lit ce livre, on est stupéfait qu'à chaque page, ou presque, les problèmes de sexualité apparaissent. Alors, on parle de dépravation de l'amour, de revendication du droit au plaisir par les hommes, et même chez les jeunes filles, une progression du vice solitaire. Donc, vous voyez l'importance de ces questions sexuelles dans la réflexion de deux abbés qui n'étaient pas, a priori, branchés sur cette question. Aujourd'hui, je voudrais aborder l'affaire avec deux fils rouges. D'abord, la question de la loi naturelle qui a pesé et qui pèse aujourd'hui beaucoup dans la réflexion de l'Église. Et puis, en second plan, l'attitude de l'épiscopat français qui a été souvent, et qui reste souvent, en retrait ou en décalage par rapport à Rome. Dans une première partie, je ferai rapidement survoler les années 50 jusqu'à Gaudium et Spes. Bon. Les nombreux théologiens moralistes abordent à ce moment-là les questions sexuelles à partir de deux fondements. D'abord, le droit canon de 1917, qui dit ceci: la fin principale du mariage est la procréation et l'éducation des enfants. Sa fin secondaire est l'aide mutuelle et le remède à la concupiscence. Cette définition a été interprétée, commentée moult fois, et Pie XII a, en 1941, ajouté une subordination de la fin secondaire, donc de l'amour des époux, à la fin première, la procréation. Deuxième fondement, la loi naturelle. Quand on lit les manuels de théologie morale, moi j'avais chez moi celui de Vitran, j'avais l'édition, la 25e édition de 1953, et il commence par consacrer plusieurs pages aux principes et notions fondamentales de la loi naturelle qui est universelle, immuable. Il cite une encyclique du pape Léon XIII qui fait référence et qui dit « La loi naturelle est inscrite et gravée dans le cœur même de chaque homme, car elle est la raison même de l'homme. » Évidemment, un peu plus tard, Pie XI, dans l'encyclique Castique Nubii, qui est la première véritable encyclique consacrée au mariage, fait aussi référence à la loi naturelle. Je n'oublie pas que je suis à Bordeaux et je ne pouvais pas, venant à Bordeaux, ne pas faire une petite incise sur Marc Oraison. Ce grand bonhomme qu'a été Marc Oraison, qui est né, qui est resté un cardinal à Bordeaux, même s'il a passé la plus grande partie de sa vie à Paris, et qui, après avoir soutenu sa thèse de théologie sur les problèmes de la sexualité et la vie chrétienne, a été appelé dans au moins une dizaine de séminaires pour voir des séminaristes. Les directeurs étaient un peu inquiets, l'interrogeaient. Il a même fait parfois, à la demande des grands séminaires, des examens systématiques pour déceler des cas difficiles, éventuellement de fausses vocations. Lui-même, d'ailleurs, ne se prononçant pas quant au fond, il donnait un avis, un conseil. Il s'effaçait ensuite devant les décisions du séminaire. Il n'empêche que quand on voit aujourd'hui tous les problèmes qu'il y a eu dans le clergé, les cas de pédophilie, on peut regretter quand même que la congrégation du Saint-Office en 1958 ait interdit toutes ces visites. Et d'ailleurs, les grands séminaires l'ont beaucoup regretté. J'ai consulté à Bordeaux, d'ailleurs, les archives qui donnent, vous pourrez aller les voir, les rapports de ces grands séminaires qui ont été faits au cardinal Richaud de l'époque et qui regrettent beaucoup que Marc Oraison n'ait pas pu continuer. Je reviens et là, je vais aux années 60. Avec le Concile, la parole des théologiens a été libérée. Certains envisagent une régulation des naissances par la pilule. Le dominicain Dubarle corrige définitivement l'interprétation de ce qu'on a appelé le crime donnant. Le crime donnant, ce n'est pas la perte de semences, comme on avait beaucoup dit. Hein. Le crime donnant, c'est de ne pas avoir rempli la loi du Lévirat qui était que Onan donne à son frère mort une descendance en exécutant l'acte sexuel avec sa veuve. Voilà. Ça, c'est très important parce que le crime donnant avait été longtemps considéré comme une des raisons qui condamnait ce fameux coït interrompu qui était la bonne et populaire et très efficace méthode pour limiter les naissances, il ne faut pas l'oublier. Autre chose aussi, la loi naturelle, dans les années 60, fait l'objet d'une critique fondamentale. Alors, en soubassement, il y a les travaux du père Chenu, qui historicisent les dogmes. Mais ensuite, il y a des moralistes qui montrent que la loi naturelle doit, elle aussi, être historicisée. Il y a le jésuite Pierre-Antoine, le chanoine Aubert, Charles Robert, qui enseigne à la faculté catholique de Strasbourg, et même, Georges Cottier, le futur conseiller théologique de Jean-Paul II, et qui, dans la revue très classique, Nova et Vetera, écrit en 67 que le respect de la loi naturelle n'impliquait pas de laisser faire le cours spontané de la nature, écrit-il. Alors évidemment, il changera d'avis ensuite. Au Concile, le chapitre sur le mariage dans Gaudium et Spes suscita, vous le savez, je pense, un affrontement passionné entre les traditionalistes et puis les modernes, disons. Et vous savez aussi que Paul VI se réserva la décision concernant les moyens de limiter les naissances. Il y a eu un chapitre sur le mariage, bien sûr, mais ce chapitre est très ambigu. Volontairement, il faut donner un peu à chacun de quoi soutenir ses opinions. Donc on a un texte très ambigu. Mais je veux insister sur deux affirmations négatives. D'abord, la loi naturelle que l'on retrouve dans ce chapitre et que l'Église doit prêcher comme fondement de la communauté entre les hommes est pire. Alors, pas dans ce chapitre-là, mais dans la Constitution sur l'Église, Lumen Gentium, il y a l'article 25. Alors, au moment où on parlait de collégialité, l'article 25 de Lumen Gentium écrit ceci: « Cette soumission religieuse de la volonté et de l'intelligence, on doit tout particulièrement l'offrir au magistère authentique du souverain pontife, même quand il ne parle pas ex cathedra. » Eh bien, ça va servir ensuite, en particulier au moment du Manivite, pour dire aux catholiques qui ne se retrouvaient pas dans l'encyclique, soumettez-vous, regardez ce qu'a dit le Concile. Deuxième partie, pour aller un peu vite, autour du Manivite. Bon, vous savez que la fameuse commission pontificale qui avait travaillé pendant des années avait reçu une consécration de Paul VI qui, en juin 64, avait dit qu'il se prononcerait avec la collaboration de nombreux savants de valeur. Or, en juin 66, la commission rend son rapport au pape, à Paul VI, et puis Paul VI ne publie rien. À la fin de l'année, il dit qu'il faut des informations complémentaires. un complément d'études, pour prendre les termes exacts. Et il a fallu attendre jusqu'à la fin de juillet 68, la sortie d'Humanévité. La longue attente de la décision du pape est devenue, je crois, alors là, je l'ai fait pour ma thèse, j'ai dépouillé la presse française de toute cette période, est devenue une attente de la libéralisation de la contraception. Au début, on attendait la décision du pape, et au fur et à mesure, on attend une décision libéralisante. Et puis, vous savez quelle a été la décision du pape. Et on peut dire que Paul VI, par ses hésitations, a préparé la contestation. Qu'est-ce qu'il y a dans Humanévité ? Dans Humanévité, il y a l'article 11, pour aller à l'essentiel. Bon, dans mon petit bouquin, je fais une étude très précise de l'encyclique. Il y a un article 11 qui fonde l'interdiction de la contraception sur la loi naturelle. Sur la loi naturelle, parce qu'il n'est plus possible maintenant de s'appuyer sur le crime donnant. Ça, c'est fini, ça. Donc, il reste la loi naturelle. On dit, Dieu a sagement fixé des lois et des rythmes naturels de fécondité. L'Église rappelant les hommes à l'observation de la loi naturelle, etc. Voilà. La loi naturelle revient au cœur de l'enseignement du pape. Deuxièmement, au numéro 12, Paul VI affirme le lien indissoluble que Dieu a voulu et que l'homme ne peut rompre de son initiative entre les deux significations de l'acte conjugal, union et procréation. Et là, Paul VI donne une nouvelle définition de la doctrine catholique qui va ensuite être consacrée par Jean-Paul II, mais n'est-ce pas naturel ? On sait que Jean-Paul II a été le dernier évêque à être consulté par Paul VI, qui lui a remis un rapport qui avait été fait en Pologne. Est-ce que ces termes-là ne sont pas dans le rapport polonais ? Bon, en tout cas, c'est consacré par Paul VI. Les deux significations du mariage désormais vont faire florès dans l'enseignement catholique. C'est la nouvelle doctrine. Et Yann Groutars, j'y pense, l'historien belge, ajoute que dans la tradition, on ne trouve rien qui permette d'asseoir une pareille doctrine. Troisième passage important, 14. Article 14. L'exclusion de toute casuistique du moindre mal, même s'il y a ensuite des directives pastorales qui font qu'on recommande d'être miséricordieux avec les personnes. Pas de casuistique du moindre mal. Et ça, je me souviens, quand j'ai rencontré Gustave Martelet, le jésuite, qui avait été désigné par Rome pour présenter l'encyclique en France, il m'a dit, quand j'ai lu ça, j'ai pâli. Parce que lui soutenait cette doctrine à condition de maintenir la casuistique du moindre mal. C'est un tournant capital dans l'histoire de la théologie morale catholique. Certes, l'encyclique n'est pas déclarée infaillible. Paul VI n'utilise pas les formules consacrées, mais était-ce bien nécessaire après le passage de l'Humen Gentium que je vous ai lu tout à l'heure ? Je ne crois pas. Hein ? C'est inutile. Ce qui est nouveau, c'est que cette encyclique de l'été 68 est suivie par des notes pastorales de réception de tous les grands épiscopats du monde entier. Alors ça, c'est jamais vu, ça ne se reverra pas. D'abord, Paul VI n'a pas fait d'autres encycliques, Je pense qu'il avait été assez échaudé par les réactions à Humaine Évité pour bien se garder d'en faire une autre. Et imaginez des notes pastorales du temps de Jean-Paul II. Impensable. Impensable. Alors, tous les grands épiscopats font une note qui reçoit l'encyclique, bien sûr. Mais une fois qu'on a reçu l'encyclique en disant sa soumission, on utilise des formules qui sont plus ou moins en accord avec l'encyclique ou qui sont carrément en désaccord avec l'encyclique. Alors, il y a les épiscopats très alignés sur Rome, l'Amérique latine, l'Afrique. Ils ont très peur des mesures de politique démographique venues des États-Unis pour carrément stériliser les femmes. Ça, ils ont très peur. Et puis, il y a des épiscopats, les États-Unis, la Belgique, l'Allemagne et la France. Et voilà, je vais parler de la note pastorale française qui est dans ce petit livre que mon voisin a aussi, mais que vous ne trouverez pas en librairie. Ça, c'est fini. C'est fini. Personne ne veut plus parler de cette note pastorale française parce qu'elle est beaucoup trop audacieuse, parce qu'elle marque une distance incroyable avec l'enseignement de l'encyclique. C'est Patecky qui va aller rééditer la note pastorale française, bien sûr. On réédite aujourd'hui les grandes encycliques de Léon XIII, de Pie XI, etc. Mais pas la note pastorale. Alors, si vous la voulez, vous irez dans la documentation catholique, 1968, et vous la trouverez. Qu'est-ce que dit cette note pastorale? Bien entendu, elle commence par recevoir respectueusement l'encyclique. Pas question de faire autrement. Mais ensuite, et aussi, pas de référence claire à la loi naturelle. Ça, l'épiscopat français a toujours été et reste aujourd'hui très méfiant et ne veut pas trop parler de la loi naturelle. Aujourd'hui, on en reparlera éventuellement. Pour l'homosexualité, on va parler de références anthropologiques. C'est quand même beaucoup mieux que de parler de la loi naturelle, parce que la loi naturelle, dans le grand public, ça passe pas. Et puis ensuite, on met des réserves incroyables. Alors, il faut dire qu'avant l'Inde pastorale, il y a eu un gros travail en coulisses par des groupes de laïcs. Il y a eu aussi un groupe de l'ATHEM, l'Association des théologiens pour l'étude de la morale, qui a donné tout un texte de conseil. Il y a eu, on en parlait tout à l'heure, la lettre du père Congar, qui était restée secrète jusqu'à ce que je la découvre 30 ans plus tard. Il y a eu tout ça qui a préparé une note dont l'essentiel est rassemblé dans le numéro 16, l'article 16, qui dit ceci. Ah, j'en suis à l'encyclique, j'en suis pas au numéro 16 de... voilà. La contraception ne peut jamais être un bien. Elle est toujours un désordre, mais ce désordre n'est pas toujours coupable. Il arrive en effet que des époux se considèrent en face de véritables conflits de devoirs. Les conflits de devoirs, à partir de là, toute la casuistique peut ressortir à partir des conflits de devoirs. Et c'est ce que fait ensuite longuement cet article 16. C'est une trouvaille. Il semble que Mgr Pézril, qui était évêque auxiliaire de Paris, ait joué un rôle... Il a toujours été discret, Mgr Pézril. Mais à plusieurs reprises, il a joué un rôle très important. Je l'ai eu au bout du fil. Il était sur ses vieux jours. Il m'a rien lâché. Alors, vraiment rien. Hein. Il m'a dit qu'il n'y avait qu'un seul livre important, c'était la Bible. Un point, c'est tout. Alors, évidemment, pour moi, historienne, j'étais un peu coincée, disons.
C'est la sagesse.
Oui, c'est ça. Alors, ajoutons à cela la manière dont la note pastorale, qui a été adoptée à l'Assemblée plénière de Lourdes, a été présentée à la presse. Elle a été présentée par Mgr Boilon, l'évêque de Verdun, un évêque important aussi.
J'ai découvert grâce à vous, je ne connaissais pas.
Ah oui. Et figurez-vous qu'il explique le conflit de voix en donnant un exemple personnel. Il dit, moi, pendant la guerre, eh ben, j'ai tué 4 Allemands. Et je n'étais pas coupable, parce que j'étais en légitime défense. C'était une manière de faire comprendre. Alors là, du coup, les journalistes, même quand ils ne sont pas férus de théologie, ont compris et ont répercuté dès le lendemain dans la presse la bonne nouvelle. Et alors vraiment, parfois, ils reprennent simplement le titre « La contraception n'est pas toujours coupable ». Et voilà, et le problème est réglé. À l'inverse, évidemment, de ce que voulait le pape Paul VI. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des crises en France, mais moins qu'ailleurs, beaucoup moins qu'ailleurs quand même. Il y a eu des femmes qui sont parties sur la pointe des pieds, bien sûr, qui ont quitté l'Église, mais ce texte a joué un rôle très important, vraiment très important. C'est une déclaration apaisante, a écrit le journal du dimanche, par exemple. Alors, il y a eu un voyage à Rome du chanoine Godillère, qui était à la tête de la pastorale familiale, que j'ai été rencontré aussi. Naturellement, le brave chanoine Godillère ne m'a aussi rien dit du tout. Bien entendu, peut-être qu'il s'est fait tirer les oreilles là-bas pour ce texte français, mais on n'en saura rien, tout est oral, et donc je pense au malheur des historiens, avec maintenant les mails qui vont disparaître. Comment allons-nous travailler dans l'avenir,
hein? Bon. Les écoutes.
Oui, les écoutes, c'est ça. Il va falloir tout enregistrer. Voilà. Alors aussi...
Mais tout est enregistré.
Nous sommes enregistrés, là.
Oui, oui. J'ajoute qu'à Noël... Le jésuite Martelet ajoutait que la note humanité et la note française étaient complémentaires. Voilà, c'est le comble, c'est le comble. Mais il l'affirme avec son autorité et ça passe. Et puis, plus tard, il fera son autocritique. Alors, c'est quand même intéressant de voir ce grand jésuite faire son autocritique dans la croix. En 1993, il écrit « À l'époque, moi-même, je n'avais pas vu qu'ici, le magistère n'était pas seul en cause. Les couples, leur expérience et leur lumière font partie intégrante de la réflexion chrétienne et de sa vérité. On ne peut par voie simplement déductive leur imposer ce qu'il faut faire. » Quelle avancée de la pensée de ce jésuite, mais c'était un peu tard, disons. Après humanité, il y a un... Tout un débat théologique, bien sûr. Est-ce que l'encyclique Humanae Vitae est compatible avec l'enseignement du Concile? Premièrement, est-ce qu'il n'est pas aux dépens de l'amour conjugal? Bon, grande question. Il y a aussi... Alors, il y a un texte mais terrible du grand dominicain lyonnais Christian Ducoq contre l'encyclique. Mais alors, vraiment terrible. La question de fond, c'est que pour l'histoire de la théologie morale, Humanae Vitae remet la loi naturelle au centre de la théologie morale catholique. Et tous les actes ultérieurs du magistère n'ont fait que confirmer ce grand tournant. Et c'est pour ça qu'on peut dire que la Humanae Vitae est une charnière, vraiment, dans cette histoire de la théologie morale. De Paul VI maintenant à Benoît XVI, pour ne pas trop m'attarder, sous le pontificat de Paul VI, il n'y a plus d'encyclique, mais il y a deux textes quand même de la Congrégation pour la doctrine de la foi, nouveau nom du Saint-Office, en 74 et en 74 concernant le débat sur l'avortement en France, évidemment condamné, en s'appuyant sur la loi naturelle. Et en 76, alors là, un texte incroyable, Persona Humana, qui, sur quelques questions d'éthique sexuelle, qui porte sur les relations préconjugales, l'homosexualité et la masturbation. L'homosexualité et la masturbation sont intrinsèquement malhonnêtes. Les relations préconjugales, c'est moins grave. Mais quand même, en général, les relations préconjugales, dans ces cas-là, on ne veut pas avoir d'enfants. quand même. Et ça, c'est mauvais aussi, ça, bien sûr. Mais c'est incroyable, ce texte. Un tout petit texte, très court, tout à fait étonnant. Là, alors là, la presse a plutôt rigolé, franchement. Il n'a pas été pris au sérieux, ce texte-là. Autant Humanévité a été pris au sérieux, autant là. Bon. L'épiscopat français, comme je le disais, n'évoque jamais la loi naturelle. Et même en 1979, l'épiscopat français va plus loin. Parce que vous savez que la loi Veil a connu deux épisodes. Elle est votée en 1975, mais pour une période probatoire. Et en 1979, elle revient au Parlement. Et donc, il y a rebelote des débats autour de cette loi. Et à ce moment-là, l'épiscopat français sort un texte disant qu'il respectait le pluralisme. Mais le pluralisme est contraire à la loi naturelle. S'il y a une loi naturelle, elle s'applique à tout le monde. Il ne peut pas y avoir de pluralisme. Eh oui. Arrive Jean-Paul II, qui naturellement consacre la doctrine d'humanévité, avec déjà Familiaris Consortio en 1981, ces fameuses allocutions du mercredi, en 1984, qui commente la doctrine d'humanévité, l'instruction Donum Vitae du cardinal Ratzinger, condamnant la fécondité, la fécondation artificielle, même entre époux, hein, par des références à humanévité et à la loi naturelle, le catéchisme de l'Église universelle, qui est quand même l'acte le plus important du pontificat de Jean-Paul II, on l'oublie souvent, avec deux pages entières consacrées à la loi naturelle, qui énonce les principes premiers et essentiels qui régissent la vie morale, avec des références à saint Augustin, saint Thomas, l'encyclique de Léon XIII dont je parlais tout à l'heure, Pie XII et Gaudium et Spes. Et puis, Veritatis Splendor, alors là, c'est l'encyclique entièrement consacrée à la loi naturelle, et qui est l'apothéose de cette doctrine. Devant le mariage homosexuel, il faut rappeler la lettre signée par Ratzinger en 1986 sur la pastorale à l'égard des homosexuels. Il dit ceci: l'inclination elle-même doit être considérée comme objectivement désordonnée. L'inclination, c'est presque une discrimination qui est instaurée. Naturellement, les homosexuels sont appelés à la chasteté, ça c'est clair. L'argumentation des évêques français devant le mariage homosexuel est quand même différente. Il y a un texte de septembre 2012 du Conseil Famille et Société qui ne fait aucune référence à la loi naturelle, qui évoque simplement la tradition chrétienne et des raisons d'ordre anthropologique. Le décalage est évident avec Rome. Il s'agit d'éviter d'en faire un combat catholique, et aussi pour élargir la résistance à d'autres qui ne sont pas catholiques. Je vous laisse le soin d'en conclure. Personnellement, je conclurai en disant qu'on ne peut que constater la crispation de Rome jusqu'à l'obsession sur la morale sexuelle. Regardez, il n'y a pas longtemps, j'avais chez moi, j'ai pu acheter un traité destiné aux confesseurs. On l'appelait le PMC, je pense que vous en avez entendu parler.
J'en ai.
Voilà. Pour mieux confesser. Et ce qui a eu un grand succès, c'était un confesseur qui était d'Arras, et qui... Donc un traité de morale. Un tiers du traité est consacré aux questions sexuelles. Quelle obsession! Un tiers. C'est fou, avec des questions d'une précision. Alors évidemment, il essaye d'avoir un langage qui ne soit pas évidemment trop scabreux, bien sûr. Mais au bout du compte, c'est ça. Est-ce parce que l'Église a été chassée du champ politique qu'elle veut garder le contrôle du plus intime des individus et avec la loi naturelle imposer sa morale à tous, croyants ou non. Je rappelle qu'en 1993, le jésuite Jean-Yves Calvez, dans la revue Les Études, avait publié un article bien intéressant. Il s'étonnait du contraste entre la manière dont Rome traitait la morale sociale, où on donnait simplement des indications, des orientations, et la morale sexuelle, où il était question de licite et d'illicite. Merci.